Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile sur Radio Immo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Immo, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Un toit dans le monde. Et aujourd'hui, on part de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. Bonjour André Périssel.
Bonjour Bérénice.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Très bien, merci.
Président de l'agence Étoile, bonjour Marie Espinoza.
Bonjour, bonjour Bérénice.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci beaucoup.
Vous êtes team international, team leader pour l'agence Étoile. Et aujourd'hui, nous avons trois invités. Alors, deux en direct de Toronto et un en plateau. Alors, en plateau, il s'agit de Alain Cohen-Boulakia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat associé pour SVA Avocat et en direct donc de Toronto. Je crois qu'il y a 6h, 7h de décalage.
Je crois qu'il est 9h du matin chez
vous. Ah oui,
oui,
il est tôt, oui. Donc, John DiMichel, CEO de Toronto Regional Real Estate Board. Bonjour. Hello.
Bonjour. Merci.
How are you?
Bonjour.
Welcome.
I'm very good. How are you?
Great. Et Jason Mercer, analyste en chef du marché pour Toronto Regional Real Estate Board également. Hello, Jason.
Hello. Thanks for having me.
You're welcome. How are you?
Doing very well.
Great, great. Eh bien, je pense qu'on est au complet. On y va pour Un toit dans le monde et on commence avec l'actualité.
Un toit dans le monde, l'actualité de l'agence Étoile.
André, nous allons faire un point sur la conjoncture immobilière, puisque ça y est, hein, nous sommes en mai. Que peut-on espérer en France après 4 mois, avec les 4 premiers mois de 2023 ?
Alors les 4 premiers mois de 2023, c'est d'une part la baisse des prix. Il concerne à peu près tous les territoires. Sur un an, la baisse des prix est de moins 2,4% à Paris. C'est le cas aussi à Lyon, à Nantes, à Toulouse. Les grandes villes du Sud-Est résistent mieux. Montpellier, Nice, Marseille. Vous êtes de Montpellier, Charbette, peut-être que vous pourrez confirmer. Les délais de vente s'allongent, surtout dans les villes avec des prix supérieurs à 4 000 € le mètre carré. Le marché est devenu un marché d'acquéreurs plus que de vendeurs. Donc les délais de vente est passé à 62 jours en moyenne à Paris, où on est à 10 177 € par mètre carré. À Aix-en-Provence, il faut compter 57 jours. Et à Marseille, où les prix sont moins élevés, il faut compter une cinquantaine de jours. Voilà, les acquéreurs prennent leur temps et négocient les prix. De leur côté, les vendeurs ne sont pas prêts à brader, donc le marché est un peu bloqué. Néanmoins, selon Emmanuel Perret, le directeur des études économiques de la FNAIM, un retour à la normale du nombre de transactions est attendu en 2023, c'est-à-dire qu'on était autour de, on avait dépassé 1 100 000 transactions. On va tourner cette année entre 1 et 950 000 ventes, ce qui est un bon niveau, c'est très correct. Donc voilà, il faut quand même remarquer que sur 5 ans, l'augmentation des prix de l'immobilier en moyenne en France était de 27%. Donc la baisse des prix est relative et on peut dire que c'est un ajustement. Alors on va rester confiant pour l'année 2023. Les prix ont tendance à baisser, mais c'est encore le moment d'acheter avec des taux d'intérêt qui restent élevés, mais en dessous du taux de l'inflation.
Oui. C'est élevé, enfin, c'est tout est relatif, on va dire.
Quand on est passé de 0,5 à 4, voilà, on peut dire que c'est élevé. Mais sinon, on est toujours en dessous de l'inflation qui est entre 5 et 6%.
Oui, qui était, je crois, 6,7 en février, hein, il me semble. Eh bien, merci beaucoup, André. C'est l'heure de donner la parole à notre premier expert.
Un toit dans le monde. La parole aux experts.
Notre expert est en plateau, il s'agit de Maître Alain Cohen-Boulakia. Vous êtes donc avocat associé de SVA Avocat. Je vous laisse entre les mains, les délicates mains d'André.
Avec plaisir. Alors Maître, vous êtes un spécialiste du droit immobilier français et en même temps au Québec. Vous étiez la semaine dernière, je crois.
Oui, tout à fait.
Quelle est la différence? Alors on ne va peut-être pas parler de différence, mais comment fonctionne la réglementation de l'immobilier au Québec?
La réglementation elle-même au Québec, elle ressemble beaucoup, assez curieusement d'ailleurs, à la réglementation française. au niveau des grands axes, au niveau des grandes, d'une acquisition immobilière, c'est-à-dire passage chez un notaire, avant contrat, grande présence des professionnels de l'immobilier, de ce qu'on appelle les courtiers immobiliers au Québec, mais avec de grandes différences au niveau de l'approche clientèle. Des agents immobiliers notamment, des courtiers immobiliers qui ont une approche clientèle totalement différente de celle qui existe dans le marché français.
C'est-à-dire que ça se passe comme aux États-Unis, un courtier pour le vendeur, un courtier pour l'acquéreur.
C'est-à-dire que c'est la même organisation qu'aux États-Unis sur base MLS, hein, à savoir au Québec ça s'appelle Centris, c'est un site sur lequel tout acquéreur peut aller et sur lequel figure la quasi-totalité des biens immobiliers qui sont en vente par l'intermédiaire d'un professionnel de l'immobilier. Étant précisé que les professionnels de l'immobilier ont une part prépondérante du marché, qui est en baisse d'ailleurs, hein, qui est relativement en baisse, mais d'après ce qu'on m'a dit, il représente à peu près 75 à 80% des ventes, avec des mandats uniquement exclusifs. Ce qui fait que l'on peut voir sur Centris, centris.ca, on peut voir un bien immobilier, tous les biens immobiliers, avec bien sûr les recherches sectorielles, avec les adresses des biens immobiliers. Enfin, c'est un marché totalement différent. Vous allez sur Centris, vous cherchez un bien quartier Saint-Henri à Montréal, avec deux pièces, et vous allez avoir tous les appartements qui sont en vente, avec l'adresse des biens et le nom du courtier. Il est d'usage que le vendeur est représenté par un courtier et l'acquéreur est également représenté par un courtier, les honoraires étant partagés entre acquéreur et vendeur. Avec une organisation du marché de l'immobilier, une organisation des professionnels de l'immobilier qui est autorégulée par un organisme qui s'appelle OACIQ et qui délivre les licences de courtier immobilier et d'agent immobilier et qui donc régule également le marché des professionnels de l'immobilier. Donc c'est au niveau de la recherche d'un bien pour un acquéreur, on est par contre dans une démarche totalement différente du système français.
Donc il y a un broker comme aux États-Unis, c'est celui qui est titulaire d'une carte professionnelle.
Alors le broker n'est pas un terme qu'on entend souvent à Montréal. Hein, où on est quand même empreint de culture française. On parle de courtier immobilier. Donc le courtier immobilier, c'est celui avec qui vous êtes en relation en tant qu'acquéreur. Et ces courtiers immobiliers se voient délivrer une licence de courtier. Et il y a également des licences d'agents immobiliers, lesquels agents immobiliers peuvent recruter des courtiers immobiliers. D'accord. Donc, le plus souvent, un courtier immobilier, je crois savoir, hein, je peux peut-être me tromper, mais je crois qu'un courtier immobilier, en théorie, pourrait travailler seul, sans passer par une agence immobilière. Mais ça ne se fait pas. Alors, je ne sais pas si c'est possible ou pas, d'ailleurs, juridiquement, mais je crois que ça l'est. Mais sur le plan économique, c'est pas du tout organisé comme ça. Il y a un certain nombre d'agences immobilières qui ont donc des courtiers immobiliers. Les courtiers immobiliers étant très nombreux au sein d'une agence immobilière, c'est le système qu'on commence un petit peu à connaître en France.
Et donc il y a une formation obligatoire, je suppose, pour avoir sa licence de courtier.
Ah oui, il y a une formation obligatoire. Et ce qui est très intéressant par rapport au système français, c'est que la licence de courtier immobilier est délivrée par un organisme, donc l'OACIQ, qui autorégule la profession. C'est elle qui sanctionne les courtiers immobiliers qui ne font pas bien, qui sont en dehors des clous. C'est elle qui délivre les licences. Elle a également, donc cet organisme a également un pouvoir disciplinaire.
D'accord, c'est un peu ce qui nous manque en France, on va dire.
Peut-être.
Et alors, comment se déroule le processus d'acquisition d'un bien ? Est-ce que c'est comme en France, on passe par une offre d'achat, un compromis, ensuite le notaire ?
Alors, c'est à ce niveau-là que c'est assez similaire. Là, par contre, le Français qui souhaite acquérir un bien au Canada va retrouver les réflexes qu'il connaît. Il n'y a pas, à ma connaissance, de diagnostic obligatoire au Québec. Mais par contre, au stade de la négociation, alors il faut savoir, vous parliez du marché français tout à l'heure, le marché canadien, le marché québécois ressemble un petit peu au marché français pour les grandes lignes de ce qui se passe à l'heure actuelle, mais il a été encore plus tendu dans les mois en 2021-2020, encore plus tendu que le marché français. Il était tellement tendu, par exemple à Montréal, qu'il y avait des offres supérieures au prix affiché, et les biens se vendaient à des prix supérieurs au prix affiché.
On peut acheter plus cher que le
oui,
prix.
Oui, on est revenu aujourd'hui à un marché un petit peu plus régulé, mais avec la même problématique que celle que vous avez énoncée tout à l'heure. Et il y a un système également d'offres d'achat, d'offres acceptées, d'avant-contrat, sans diagnostic immobilier obligatoire. Par contre, l'acheteur peut faire appel peut solliciter un rapport d'inspection, ce qu'on appelle un rapport d'inspection, qui est fait par un technicien. Mais c'est pas obligatoire. Et ça fait partie de la négociation. C'est-à-dire, le vendeur peut très bien dire, moi, je refuse qu'il y ait une condition de rapport d'inspection. Ce qui, quand même, n'est pas très bon commercialement. Mais il peut le refuser. Ou, au contraire, l'acquéreur peut en faire une condition suspensive de son acquisition, à savoir un rapport d'inspection qui ne révèle pas de vices dans l'immeuble, etc., etc.
Mais de toute façon, c'est à la charge de l'acquéreur, ce rapport.
C'est à la charge de l'acquéreur. Et autant que je sache, le coût d'un rapport d'inspection est compris, suivant les biens, entre $600 et $1,000.
Donc, ce sont des cabinets spécialisés.
Ce sont des cabinets spécialisés, mais qui sont très axés sur la technique, hein, sur la technique du bâtiment.
Et alors, une dernière question, Bérénice. Alors, est-ce qu'on peut investir au Québec? Un Français voudrait investir au Québec. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est intéressant?
Alors, intéressant, ça, moi, je suis avocat, je ne suis pas professionnel de l'immobilier pour vous dire si c'est intéressant sur le plan économique. Mais en tout cas, c'est à l'heure actuelle impossible pour un Français qui n'est pas résident temporaire ou qui n'est pas résident permanent. Le marché aujourd'hui est fermé dans la mesure où il y a une loi qui est une loi de l'État du Québec, hein, une loi qui interdit pour un non-résident d'acquérir un bien immobilier.
Et le but est de ne pas faire monter les prix.
Alors, je crois savoir que cette législation a été mise en place pour éviter les investissements trop importants des étrangers d'origine asiatique qui investissaient énormément, surtout des Chinois qui investissaient énormément à Montréal. C'est-à-dire eux qui sont à l'origine un petit peu des mécanismes de surenchère sur les acquisitions. Et donc, on a cru pouvoir réguler le marché en mettant en place cette législation. D'après ce qu'on m'a dit, c'est plutôt un échec et ça n'a pas entraîné une baisse considérable des prix.
Eh bien, merci beaucoup, maître. On part justement au Canada. On va se connecter.
Un toit dans le monde, la destination du mois.
Alors, juste avant, Marie, pouvez-vous nous parler de l'attractivité de ce beau pays qu'est le Canada ?
Bah écoutez, Bérénice, le Canada, c'est encore un pays où il y a tant à faire. C'est un des pays où il y a le plus de forêts au monde, où il y a le plus de vastes plaines inhabitées. Donc, c'est un pays où les gens qui ont envie justement d'un ailleurs et de tout recommencer, où c'est encore possible. Je crois que c'est une destination parmi les préférées des Français pour émigrer, le Canada. J'imagine parce que la langue aussi.
Oui, il y a
une culture qui reste commune et qui est. C'est vrai que les Français aiment pas trop parler des langues étrangères, ça on le sait. Donc c'est vrai que quand
ils sont un peu flemmards.
Ils sont très flemmards. Donc quand ils disent tiens, bah si je devais changer de pays, aller ailleurs, ils regardent un petit peu les pays où on parle français et le Canada, arrive souvent en numéro un, c'est vrai. Et beaucoup de jeunes partent faire des études en Canada et puis ils y restent. Je crois qu'il y a une convivialité et qu'ils ont su vraiment trouver un équilibre entre la vieille Europe démodée et le rêve américain. Pour moi, voilà, il y a des deux, en fait. Il y a encore un côté très authentique qu'on peut trouver en Europe et il y a ce côté très moderne. Qu'il y a aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que il y a des lois qui ont été dépénalisées là-bas au Canada. Je crois que ça aussi, ça incite pas mal de jeunes Français à aller s'installer aussi, là-bas, non?
Oui, je sais qu'il y a aussi une grosse pénurie de talents hein, au Canada et qu'ils viennent chercher les talents en France, hein, des sorties d'école qui reçoivent de très belles propositions. J'en connais personnellement qui sont partis s'installer au Canada.
Voilà, notamment dans le doublage. Moi, je sais que voilà, il manque beaucoup de comédiens, et oui, effectivement.
Au secteur de la santé.
Ouais. Et puis même des ingénieurs, hein, des gens qu'on fait centrale, etc. Voilà, ils viennent chercher des talents.
En tout cas, c'est clairement une destination qui arrive sur la table quand on doit changer de pays et partir. Donc, je pense que le succès, il est là.
Alors justement, connectons-nous avec nos deux invités, donc John DiMichele, CEO de Toronto Regional Real Estate Board, et Jason Mercer, donc analyste en chef du marché, pareil, de Toronto Regional Real Estate Board. Marie, alors peut-être on va leur poser la première question. Quelle est la tendance du marché immobilier en ce moment au Canada?
So what is the... Hi, hello guys. So
hello.
Here we are now. So we're here to talk about the Canada and not only Toronto, maybe. So can you tell us, like, what is the trend in the real estate market right now? Do you have any trends? Like, is there more buyer? Who's going to answer this question?
Oh, Jason, you can answer.
Sure. I mean, you know, we've seen a real sort of shift in the marketplace over the last year. I mean, in March 2022, you saw the Bank of Canada start to aggressively raise interest rates, and as a result, we started to see, you know, some would-be home buyers move to the sidelines, and you saw home selling prices decline to mitigate the impact of higher borrowing costs. And so that's kind of the environment that we are in.
Wait. I'm going to translate this because I need to translate this. Oui, donc en gros, oui, ils disaient qu'ils avaient eu à peu près les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire qu'à partir de mars 2022, les banques, elles ont commencé à relever les taux d'intérêt et que mécaniquement, forcément, ça fait chuter les volumes de vente et les prix aussi un petit peu. OK, we're back.
Well, what we've seen over the last couple of months is actually a real shift in market conditions, where a lot of those buyers who had initially put their decision to purchase on hold, they're moving back into the market, and in a big way. We've seen strong month over month increases in sales, and we're starting to see more competition between buyers, and that's leading to renewed upward pressure on home prices as well.
And so they don't care about the rates of the bank, and it's not an issue anymore. Or they just deal with it?
Yeah, over the course of the last year, what we saw is that people had to take a bit of a step back and sort of recalibrate where they were in the marketplace vis-a-vis higher borrowing costs. And so some people may have decided to purchase a less expensive home or a home in a different location or some combination thereof in order to account for higher borrowing costs.
But they're back now.
Yeah, more and more households have come to that decision, and they're starting to move back into the marketplace.
Okay, let me translate. Oui, alors en fait, ce qu'il dit, c'est que là, ça fait deux mois qu'en fait le marché est vraiment en train de s'inverser et que de nouveau, en fait, les investisseurs qui avaient été justement un petit peu sur la défensive par rapport à ces taux et tout ça, finalement, ils sont de retour maintenant et peut-être même encore plus fort. Ils ont parfois, certains d'entre eux ont changé leur projet, ont recalculé mieux pour mieux se positionner peut-être dans leur investissement. Mais en tout cas, là, de nouveau, il y a beaucoup de ventes et puis on assiste à des... ils se battent entre acheteurs. Ouais. Donc ça veut dire que le marché repart, en gros.
Ouais,
c'est une très bonne nouvelle.
Donc ils ont attendu un certain temps, puis là, ça y est, ils sont de retour.
Voilà, c'est ça. Il y a eu un an de battement, et puis là, ça y est, ils, de nouveau, les gens sont là pour réinvestir.
Au sein même du pays, est-ce qu'il y a des disparités, en fait, entre les États?
So if we take, like, is it the same market more or less if you say, let's say, Vancouver, Toronto, or if you go to Montreal? Or is it completely different?
I think that there's small differences in the marketplace, but the sentiment from the buyer and the sellers are the same. And I think to build a little bit on what Jason was saying, part of the problem is that there's very little supply. There's very little homes on the market for sale. And the ones that are on the market are staying longer. But I think there was an adjustment by the buyer and the seller, because many sellers thought that they could sell the house for what it was worth in 2021. And now they had to adjust in their minds what the new price level is. And that's taking a little bit more time. But it's more of adjusting. This is the new market. It's the new reality. But we're seeing that pretty much across the country.
Okay. Oui, il dit qu'en gros, c'est, y a des petites différences, mais que d'une manière générale, de nouveau, les investisseurs, effectivement, étaient de nouveau sur le, pour se positionner sur des biens. En fait, il dit que le problème, et c'est vrai que c'est le même partout, j'ai l'impression, dans le monde, c'est qu'on n'a pas, il n'y a pas d'offres. Oui. Donc forcément, quand on dit les immobiliers baissent, ceux qui n'ont pas besoin de vendre, ben, ils ne vont pas se mettre à vendre à ce moment-là.
Bien sûr.
Et finalement, ne restent sur le marché que ceux qui sont vraiment obligés de vendre, donc les divorces, les successions, tout ça. Et donc, bon, ben, ça aide pas forcément, enfin, ça soutient énormément le niveau des prix, quoi.
Oui, bien sûr.
Partout.
Alors, tout à l'heure, on évoquait les investisseurs étrangers. Est-ce que donc les étrangers peuvent investir dans l'immobilier et quelle est la part de ces investisseurs étrangers?
So we were talking right just before with the lawyer. So apparently, like when you're a foreigner, you cannot purchase like a home in Canada.
C'est une législation qui est état par état. Tout à l'heure, je vous ai bien précisé, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est pour que la question soit mieux comprise par nos amis de l'Ontario. Posez-leur leur question pour l'Ontario, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne ce que j'ai pu vous dire, ça concerne le Québec. Donc, excusez-moi de vous couper. Les auditeurs comprennent bien. Voilà. Posez-leur la question pour l'Ontario.
He was saying earlier that in Quebec, like if you're French, you cannot purchase a home because you're a stranger and you cannot buy. So that's how it is in Quebec. But he was saying like it's not all the same in all the regions. So how are we in Toronto? Can a French girl buy an apartment there, or do you have to to marry someone?
Yeah, you can marry someone. Look, there are many ways to come into Canada. Still, you can apply for a work visa, you can apply for citizenship. It's all online. You can do that all online. But there is a foreign buyer ban in place right now.
Okay.
And that prohibits someone to just buy a home as an investment. And many times what happens is, or what has happened, or the perception of what happened was that people would buy a home and then not live there. And now you're really taking that house out of the supply chain because it's really just an investment and they're holding on to it. In fact, on my street, there is one house exactly like that where I live. They come maybe once a year. They're there for a little while. But I think there are exceptions. You can also buy a property in a center that is at least 100,000 people with 50,000 people living in the core. And you can you can buy property on the outside of that center. So there are exceptions to the foreign buyer ban. But if you're just going to buy condos and say some of the things that were happening in Toronto, Montreal, and Quebec, people would buy, and as well in Vancouver, they would buy a whole floor of condos and then no one would live there. So I think what they're trying to do is prevent supply that people need. And we don't have enough homes now in Canada for the people that are there. And there's been a promise by the government to build 1.5 million homes over the next 10 years, which is a big challenge, just to make it easier for people to find a place to live.
Okay, let me translate. Oui, donc en gros, non, on ne peut pas acheter. Je vous confirme qu'on ne peut pas acheter au Canada quand on est étranger. Alors évidemment, on peut demander la nationalité.
C'est assez facile, non?
Je crois, en tout cas. Oui. On peut faire des
demandes. Excusez-moi de couper à nouveau, mais un résident peut acheter. Hein.
Oui,
quelqu'un qui a une carte de résident.
D'un étranger.
Un étranger qui a une carte de résident. On n'est pas obligé d'avoir la nationalité canadienne, québécoise en tout cas, d'être citoyen québécois en tout cas, pour pouvoir acheter.
Mais il faut être résident. Un Français qui habite à Paris, par exemple, ne peut pas acheter...
S'il n'est pas résident canadien.
S'il n'est pas résident.
Oui,
de Paris, on ne peut pas acheter un pied-à-terre, par exemple, au Québec.
Voilà, donc ce qu'il disait, c'est qu'en fait, c'est une loi qui a fait le Canada, parce que justement, il y avait beaucoup des gens qui achetaient des étages entiers d'immeubles, et puis que finalement, ils les gardaient comme ça, il n'y a personne dedans. Nous, en France, on a fait une taxe contre les logements vacants, mais je suis étonnée que le marché ne soit pas plus pris dans la gueule que ça, parce que nous, demain, on nous enlève les investissements étrangers. ce serait très très dur à Paris.
Bien
c'est
sûr.
Fou quand même.
Est-ce qu'on peut, on peut leur demander, Marie, si la hausse des taux d'intérêt hein, dont on a parlé tout à l'heure affecte les prix et quelle est cette incidence justement sur les prix?
Ben, ça, je veux dire, ils ont déjà un petit peu répondu à la question. Je vais peut-être...
S'il peut nous donner quelques fourchettes de prix, oui. Peut-être avec ça.
Voilà. So about the rising rates, that affects prices. We already said that. So it's more shifting now, and it's coming back to where it has to belong, and everyone is paying attention and makes efforts. But like just to say, like how much is a nice home in Toronto, for example, just to give the people like. An awareness of how much are the cost of the real estate there. How much is a condo, like a two-room condo and a nice house?
Sure. So, I mean, we released our April stats last week. And so, for example, if you're looking at a condominium apartment in the city of Toronto, you're looking at about $750,000 Canadian. And then, you know, if you're looking at a detached home that would have a yard of some type, you're looking at closer to $1.8 million on average. And, you know, those prices have been starting to trend upwards since the beginning of the year, as we talked about previously, as we're seeing more and more people get back into the market. And just picking up on what John mentioned, there's not a lot of supply to go around. And so
it's picking up.
We're seeing an increase in pricing as well.
OK. Alors, donc, eux, ils disent qu'en fait, ça y est, vraiment, la hausse des taux, elle a été intégrée par les gens et que là, ils retrouvent un marché qui est non seulement dynamique, mais qui ont des prix qui remontent.
Donc, ça remonte, oui.
Ça remonte, d'accord. Voilà. Et bon, écoutez, Toronto est quasiment aussi cher que Paris, hein, 2 millions d'euros pour une belle maison, bon.
Oui, oui. Les prix sont assez élevés. Juste, Maître, vous aviez une question,
oui,
rapidement.
J'avais une question, mais je préférais que vous la posiez en anglais que moi.
Dites-moi. We have a question for you. Wait.
Si on prend le marché de l'immobilier il y a 10 ans au Canada, il y avait une assez grande homogénéité des prix entre les différentes métropoles. Si on prend par exemple les trois plus grandes métropoles, Vancouver, Toronto, Montréal, il y avait une assez grande homogénéité des prix. Et les prix ont considérablement augmenté à Vancouver et à Toronto, beaucoup plus qu'à Montréal au cours des dernières années. Si bien que Montréal est aujourd'hui moins cher que Toronto et encore moins cher que Vancouver, qui est plus cher que Toronto. Je parle grande image, hein, là, grande image. Est-ce que, puisqu'on a la chance d'avoir un analyste, est-ce qu'il pense que dans l'avenir, les prix vont augmenter davantage de manière homogène au Canada, ou est-ce qu'il va y avoir encore cette disparité entre les différentes métropoles, qui est immense, hein, elle est beaucoup plus importante qu'en France, cette disparité.
Okay, so I'm just learning right now that there is a big difference, price difference in, like, if you want to buy a house in Montreal, it's way cheaper than it is in Toronto, and Toronto is cheaper than it is in Vancouver. And so 10 years ago, there were like this big gap in between the prices and in between the regions in terms of price. So is it beginning to fail down a little bit now? Like, is Montreal like rising up and Toronto is lowing back? Like, are they all the same? And do you think like in 10 years, we'll still have the same differences of prices and regions? Or do you think the trend is that it's going to get back together and be more linear?
Well, I think if you look at, you know, at the, you know, say average selling prices between the three major centers in Canada, Toronto, Montreal, and Vancouver, there is still a difference in terms of pricing. So I don't have the April numbers in front of me, but certainly looking back to March, you know, if you're looking at, you know, the average selling price in Toronto was again over $1.1 million versus, you know, more in the, you know, $500,000 to $600,000 range for Montreal, again, okay, in Canadian dollars. And you're right, Vancouver was, say, $150,000 on average more expensive than what we saw in Toronto. So we still do see these regional disparities. Some of that has to do just with the availability of housing, and some of that has to do just with sort of historic price points and where they sat over time. But certainly, you know, if you think of a lot of major centers in Canada, these three included, you know, we have seen, you know, strong growth in the regional economy, and that's attracted people from all around the world to settle in these major centers to take advantage of those job opportunities and what have you. And so certainly, you know, whether we're talking about the Toronto market or other major markets across the country, I think you are going to see, you know, renewed interest in ownership housing and start to see that upward pressure on pricing.
And if I could add a little bit, unless you want to translate that, and then you can come back to me if you want.
As you want.
Yes. Okay, I'll just add a little bit. If you look at Vancouver, though, Vancouver is really very small geographic. You've got the ocean, and then you have the mountains. Very little amount of land where you can build homes. So when you don't have much land, prices are going to go up. You can either move more inland, but if you want to live in Vancouver proper, it's very expensive because there's so little. And if you look at Toronto, we have the lake, Ontario, and then we have the mountain, another set of mountains, but it's not mountains. It's the green belt that goes around Toronto, which makes it also very small. If you can't build north of where this green area that's been preserved for, you know, farming and just nature, not supposed to be built beyond that, you've also made it very small, tight area where you cannot build, and if there's past that. So again, if there's no land to build, you can't really put supply, and now it becomes more expensive. Montreal has some challenges of their own, but it's also population. We expect to have, we grow between 300,000 and 400,000 people in the Greater Toronto Area every year. It's just a challenge, not enough supply.
Oui, alors ce qui est intéressant, donc c'est oui, les disparités de prix continuent et effectivement, c'est bien ce que vous disiez, c'est-à-dire que Vancouver est beaucoup plus cher que Toronto, qui est beaucoup plus cher que Montréal. Alors, ils expliquent ça, bon, d'abord par des histoires d'attractivité, et de où sont les économies, voilà. Et ensuite, effectivement, un petit peu comme à San Francisco, qui est très cher, parce que bah, c'est une île, on ne peut pas construire autour, voilà, c'est ça, c'est ce que c'est, donc c'est très cher. Ben, en fait, ils ont un petit peu les mêmes contraintes géographiques au Canada, puisque ben, Toronto, c'est entre un lac et une barrière préservée de nature, en fait, où ils n'ont pas le droit de construire. Et de l'autre côté, Vancouver, ben, c'est pareil, tu as l'océan et la montagne. Donc, en fait, géographiquement, ils ne peuvent pas construire beaucoup plus que ce qu'il y a. Et en revanche, comme le pays, ben, économiquement, il grossit énormément et qu'il est très attractif, ils sont obligés, quoi qu'il arrive, de loger 3 500 personnes de plus chaque mois, je crois. Donc, il faut trouver les endroits pour loger les personnes qui viennent travailler, qui viennent s'installer. Et il y a peu d'endroits, et c'est pour ça que les prix se maintiennent. Et c'est pour ça, comme à Montréal, en revanche, il n'y a pas cette étroitesse de géographie et qu'il y a moins d'attractivité, moins de business, en fait. Voilà, c'est aussi pour ça que les prix sont un peu plus bas au Québec français.
Allez, dernière question très rapide. Est-ce qu'ils peuvent nous donner des conseils, enfin donner aux auditeurs qui nous regardent des conseils aux Français qui aimeraient s'installer au Canada?
What piece of advice would you give to a French guy who wants to settle in let's say in Seattle or in Toronto or wherever in Canada? What would you say?
You're welcome. To come, please come. That's what I would say.
Yeah.
You're welcome. Please. I would suggest that they visit and go to places that they would be interested in living and explore. There's so much to do. We've got the beautiful city of Montreal. It's old Montreal is spectacular, or old Quebec City. Very beautiful places to live. Toronto, come and explore and see what we have available here in Montreal. And Toronto are very close in friendship in our world, in the real estate space. We have relationships across the country, but think where you want to live, come visit, explore, learn about how Canada works, apply for a citizenship or apply for a visa, and you can work, you can get a job, you can get a work visa. There's many ways to enter the country, but it would be a good opportunity for people to come here. We have a great relationship with our friends, as I said, but we'd be willing to help and welcome everybody.
Thank you so much.
Bon, je crois qu'on l'a compris, tout le monde est le bienvenu, il y a du travail, il y a de la place pour tout le monde.
Voilà, et puis non, ce qu'il disait aussi, c'est surtout aller dans les endroits qui vous attirent, explorer, aller de ville en ville. C'est vrai que, bon, là, moi, je pense à Vancouver, et puis d'un coup, il me parle de cette ville, et j'ai la chanson de Leonard Cohen, Suzanne, qui me vient. Je crois qu'il y a quand même quelques belles chansons qui ont été faites au Québec, américain aussi, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Thank you very much. Merci, Marie. On va faire tout de suite le point avec plaisir sur l'agenda. On revient en Europe. On va en Espagne, André.
Un toit dans le monde, l'agenda de l'agence Étoile.
Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier en Espagne, en même temps, passer un week-end à Madrid, le Salon international de Madrid. Du 24 au 28 mai.
Tout simplement.
Voilà.
Voilà, c'est noté la date. Eh bien, merci beaucoup André. L'émission se termine, on va faire un petit point avant de nous quitter.
Un toit dans le monde, la conclusion.
Alors André, que peut-on retenir de ce numéro spécial Canada ?
Eh bien, de l'optimisme, puisque au Canada, malgré la hausse d'intérêt, les prix se maintiennent. Et le marché est soutenu. Donc... de l'espoir pour la France.
Eh bien voilà, on se quitte sur une note positive. Merci beaucoup André Périssel, merci Marie Espinoza, merci à nos invités Alain Cohen-Boulakia, merci à nos invités à distance, thank you very much John DiMichel et Jason Mercer, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dès le mois prochain pour un tout nouveau numéro de Un Toit dans le Monde. Restez connectés.
Un Toit dans le Monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.